Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours du module sonore. Aujourd'hui, on va voir le choix et la fonction des instruments dans vos méditations ou dans vos soins sonores. On va voir un peu leur classification, comment on va les utiliser et on va faire un petit zoom tout particulièrement sur les bols chantants, les bols en cristal, les tambours, les gongs. Et à la fin, je vous ai fait une petite annexe pour que vous puissiez trouver votre bonheur parmi les quelques instruments que j'aurai listés. On commence ce cours en parlant un petit peu de la, comment dire ça, de l'incorporation des instruments dans les pratiques sonores. Déjà, tout objet sur lequel vous pouvez exercer une action, ça peut devenir un instrument. Pour apaiser par le son, vous n'avez pas besoin d'être musicien, vous n'avez pas besoin d'avoir une armada d'instruments, même si évidemment ça rajoute un plus. Mais le plus important, c'est l'approche que vous allez avoir des sonorités et comment aussi vous allez vous autoriser à créer des voies d'exploration sonore. C'est ça le plus important. Donc, dans les bains sonores, la moitié peuvent, ça peut être des instruments et l'autre moitié, ça peut être des objets de la vie quotidienne. Voilà, il faut vraiment laisser parler son, même pas son imagination, mais juste son écoute en fait de notre environnement pour voir quels sons éveillent quoi, en quoi ce serait intéressant de partager, etc., etc. C'est vraiment la sonothérapie et tout ce qui gravite autour, c'est une découverte qui est curieuse de toutes les propositions sonores qui nous entourent et de tout ce qui possède au final une vibration. Tout ce qui possède une vibration, enfin tout ce qui est du coup, est intéressant du point de vue sonore. Chaque instrument a quand même un timbre unique. Ce qui modulera ce timbre, c'est la façon dont vous allez approcher l'instrument, c'est-à-dire l'attaque du son. Par exemple, hop, sur un tambour, il y a une différence entre et l'attaque du son est différente. Aussi, la forme et la matière de l'instrument peut amener forcément des différences de timbre, même pour les instruments qui paraissent identiques. Par exemple, deux guitares ne sonneront pas forcément de la même manière, même si c'est en soi les mêmes modèles. Et la modulation de la vibration va aussi moduler le timbre. En clair, est-ce que la vibration est plus ou moins longue? Est-ce qu'elle est plus ou moins dense? Voilà, comment la vibration a été modulée? Et aussi, ce qui va jouer sur le timbre, c'est le vécu de l'instrument. Un instrument qui est plus vieux, il a peut-être un peu plus travaillé et il a une sonorité qui est encore plus particulière, peut-être plus profonde qu'un instrument qui est tout jeune, tout neuf. Donc et aussi, ou alors un instrument qui a été laissé, par exemple un instrument en bois qui a été laissé à l'humidité, typiquement, ben voilà, ça peut engendrer des modifications, pardon, sur le timbre. Donc d'ailleurs je l'ai mis en fonction du lieu de stockage, de l'ancienneté, mais aussi de la personne qui l'utilise, ça aussi c'est important. L'instrument peut avoir sa vibration, peut voir pardon, sa vibration changer, parce qu'il va s'imprégner de l'environnement où il est, des vibrations de cet environnement. Et c'est important d'apporter un soin tout particulier à vos instruments, comme si c'était un ami que vous chérissez, vraiment une relation d'instrument à vous, à joueur, enfin à musicien presque, et c'est ça le plus important. Comme vous avez avec vos pierres, comme vous avez avec vos oracles, gardez des échanges énergétiques hauts en vibration avec vos instruments. Ne le laissez pas prendre la poussière. Bon, vous pouvez, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez, forcément, si vous l'utilisez régulièrement, si vous faites attention à lui, si vous faites attention à son entretien, forcément, la portée énergétique sera beaucoup plus importante. C'est comme vous, quand vous prenez soin de votre énergie, forcément, votre taux vibratoire le ressent de manière conséquente. Alors, aussi, chaque instrument a une âme. Ça, c'est aussi important de par les matériaux qui constituent l'instrument, mais aussi par les conditions, par la date de fabrication de l'instrument. Ça va vraiment venir moduler son caractère, si je peux dire. L'instrument, il intériorise une multitude d'éléments. C'est ça qui le rend unique, c'est ça qui le rend inimitable. Et aussi, du coup, la personne qui l'utilise, quand je disais ça, c'est parce que forcément, si vous avez des très basses vibrations, forcément, ça va se faire ressentir sur la manière dont vous jouez l'instrument aussi. Donc ça, c'est aussi bon à noter. Pour ce qui dit de l'acquisition de vos instruments, il n'y a aucune règle. Tout dépend de votre sensibilité. Laissez-vous appeler. Je vous conseille autant se peut que de les acheter en direct, c'est-à-dire de voir les instruments, de les essayer. Je vous ai mis une liste de sites internet en annexe du cours, mais en physique, le voir l'instrument, c'est quand même pouvoir mieux l'appréhender, mieux appréhender ses vibrations, mieux appréhender sa personnalité, qu'est-ce qui vous attire en lui, etc., etc. Vous pouvez choisir un instrument en fonction de vos besoins, par exemple avec les caractéristiques qu'on va décrire dans ce cours, ou vous pouvez aussi choisir, pourquoi pas, votre instrument en fonction de son histoire, sa culture, parce que en raison de la région, de sa provenance, il y aura peut-être une résonance avec votre propre histoire. Par exemple, moi qui viens de La Réunion, je suis beaucoup plus attirée par les instruments africains. Ça aurait pu être autre chose, hein, mais c'est juste pour vous donner un exemple. C'est normal aussi que certains instruments vous appellent peut-être un peu plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que vous suiviez les instruments de votre origine, hein, absolument pas. Laissez-vous porter par votre cœur. L'instrument va vous appeler et c'est une rencontre qui vous suivra toute votre vie. En général, les instruments, ils nous suivent. Ou alors, on les passe à des amis, ou on les passe à de la famille, mais c'est rare. Enfin, en général, ils restent quand même avec nous longtemps. C'est un dialogue de résonance qui va se tisser entre vous et vos instruments. Et même que pour certains, vous allez ressentir que ce sera peut-être pas juste de les prêter. C'est-à-dire que, en fonction des instruments, moi je sais qu'il y en a que je peux prêter sans souci. D'autres, je ne les prête pas parce qu'ils sont tellement... Il y a tellement un rapport intime que c'est comme avec son pendule, par exemple, me viendrait pas à l'idée de le mettre dans toutes les mains. Mais il n'y a aucune règle, hein, encore une fois, il n'y a pas de convention là-dessus. Voyez ce qui fait sens pour vous, mais gardez en tête que en travaillant avec un instrument, vous allez l'habituer à votre fréquence, vous allez l'habituer à vos process, et c'est une vraie relation intime qui s'installe. Ok, donc en vous appropriant vos instruments, ils vont devenir des guides, ils vont vous apprendre à en jouer. Vous allez suivre le mouvement. Instinctivement, vous allez reconnaître quand vous allez continuer le son, ou vous allez arrêter le son, ou vous allez moduler le son. Au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus intuitif, et il y aura un dialogue vibratoire entre vous, l'instrument, et votre manière de jouer. Si vous souhaitez acquérir des instruments, je vous ai quand même donné 3 conseils. Bon, le premier, je le redis, suivez votre cœur, suivez les vibrations qui vous attirent sur le moment. Le deuxième, c'est de bien veiller à sa méthode de fabrication, à sa provenance, à son éthique. Si toutefois, c'est quelque chose qui est important pour vous, parfois, la fabrication, la provenance, l'éthique, c'est pas forcément quelque chose, un critère pour tout le monde, enfin c'est ok. Et mon troisième conseil, c'est aussi le côté praticité, c'est-à-dire par rapport à l'utilisation que vous allez en faire. Si vous prenez par exemple des gros instruments, ça va être beaucoup plus compliqué de les amener à droite à gauche si vous êtes amené à bouger souvent. Au contraire, si vous faites beaucoup de méditation sonore, même si vous faites beaucoup de méditation en mouvement, au final, les instruments qui sont lourds, ça va être difficile pour vous de bouger avec, de circuler dans la pièce. Donc prenez aussi en compte votre utilisation. Si vous avez une utilisation très nomade, ce serait dommage d'avoir des gros gongs hyper lourds ou des bols de cristal de 80 cm. Bon, je vous souhaite un jour d'avoir l'argent d'acheter un bol de cristal de 80 cm, mais voilà, vous m'avez comprise. Aussi, quand vous jouez d'un instrument, votre canal se relie au canal de l'instrument. Il devient l'intermédiaire de l'énergie qu'il transpose, l'instrument. Donc c'est l'idée que l'instrument, il fait aussi canal, comme vous, de certaines informations qu'il va émettre, qu'il va transmettre. Et comme vous allez travailler avec la source, soyez aussi ouvert, soyez connecté aux propositions de votre instrument. Parce que lui aussi, il fait canal de la source. Donc parfois, vous allez jouer avec une intention, vous allez jouer avec un message précis à faire passer, et vous allez passer par l'instrument pour faire passer ce message. Ou alors, d'autres fois, ce sera vraiment de l'intuition pure, hein. Ça, c'est aussi tout aussi bien. Ok, maintenant on va voir leur classification. Alors, dans un instrument, on va retrouver toujours deux parties, l'exciteur, je sais plus. En clair, c'est ce qui va produire le son, et le résonateur, ce qui va faire résonner l'instrument et lui donner son timbre. Par exemple, pour une guitare, l'excitateur, c'est la corde et le résonateur, c'est la caisse. La classification classique sépare les instruments selon l'excitateur. Donc, on va retrouver les instruments à cordes avec les cordes frottées, comme les violons, les cordes frappées, comme les pianos, les cordes pincées, comme les guitares, les harpes. Vous avez aussi les instruments à vent, d'un autre côté, avec la voix est un instrument à vent, les bois, donc les instruments à vent en bois, et les instruments à vent en cuivre. Vous avez les cuivres aussi, type trompette, etc., etc. Les bois, ça va plus être des flûtes, même si vous avez des flûtes qui sont pas toutes en bois, enfin, vous avez pas toutes les flûtes sont en bois. Et enfin, on a les instruments à percussion, les xylophones, vous savez, c'est ces plaques de métal sur lesquelles on va frapper, les pots, donc les tambours, et tout ce qui va être accessoires, les crécelles, tout ce genre de choses. Ok. Dans l'utilisation vibratoire qu'on souhaite en faire ici, on peut prétendre à une autre classification. C'est-à-dire que, bon, il y a cette classification de base, ok, très bien, mais nous, en énergétique, comment on peut classer les instruments ? Quel instrument peut-on utiliser pour quel mouvement énergétique ? Quel instrument peut-on utiliser pour quelle zone du corps ? Quel instrument pour quelle sensibilité, etc. Vraiment, alors chaque expérimentation est unique, ok ? N'oubliez jamais que ce que je dis dans ce cours, n'en faites pas des certitudes, par pitié ne faites pas ça, mais c'est pour les éléments qui suivent vont vous permettre d'avoir une petite entrée en matière pour vous repérer en fait dans tout ça tout simplement. Alors, je vous ai fait un schéma pour classifier un peu, pour classer les instruments selon les éléments déjà, mais aussi, alors sachant qu'il y a des instruments qui vont voyager entre les éléments, c'est pour ça que vous avez des flèches parfois. On a du plus dense au plus subtil. Quand on est vers la terre, tout ce qui va être tambour, on est beaucoup dans les vibrations terre. La voix aussi, parce que, comme on l'a vu avec les voyelles O, on est beaucoup dans des énergies de la matrice, de la terre-mère. Donc, on a aussi les gongs qui vont beaucoup appeler à cette énergie de la terre. Et les bols quand ils sont frappés. C'est-à-dire que, en fonction de la manière dont vous allez jouer les instruments, ça va aussi appeler autre chose. Les bols frappés... Voilà, c'est quand on fait une frappe sur un bol comme ça. Au niveau de l'eau, alors encore une fois, je vous ai mis des exemples. Il y a plein d'autres instruments qui existent et ne catégorisez pas trop, c'est vraiment pour vous repérer. Au niveau de l'eau, ça va être tout ce qui dit bâton de pluie. Voilà, ce genre de choses. Les crécelles aussi. Moi, j'aime bien les mettre aussi dans l'air. Les crécelles. Bon, après, c'est ma manière de voir. Et aussi ce qu'on appelle les tambours océans. Alors, j'en ai pas à vous faire écouter, mais c'est des tambours avec deux pots de chaque côté et où il y a des billes à l'intérieur. Et quand on le secoue, ça fait le bruit des vagues de l'océan. C'est vraiment super, super agréable. Pareillement, on peut faire aussi on peut aussi moduler la voix, on peut faire du gong, on peut faire du bol frappé pour l'élément eau. Pour le feu, ça va être tout ce qui dit percussion en métal. Alors, j'en ai pas à vous faire écouter, mais c'est tout ce qui est handpan ou tout ce qui dit tongue drum. Vous savez, c'est ces petites. On voit souvent les pubs d'ailleurs de ce genre de choses. Je dis ce genre de choses parce que c'est souvent des pubs de dropshipping, donc il faut faire attention là où vous allez acheter vos instruments. Ce sont comme des soucoupes un petit peu métal où il y a différentes sonorités en fonction de là où vous allez frapper l'instrument. Donc voilà, c'est ça, tout ce qui dit percussion en métal, c'est ce type d'instrument. Les kalimbas aussi d'ailleurs font partie de des instruments, des percussions en métal. Ok, et aussi je vous ai mis les cordes qu'on relie un petit peu aussi à l'élément feu. Alors les cordes, hein. Guitare, voilà, vous avez aussi d'autres instruments à cordes, voilà, mon pauvre kalimba il est plein de poussière. Ok, et au niveau du feu, vous avez aussi le gong hein, qui va jusque là, les bols quand ils sont frappés également. Et voilà, au niveau de l'air, on a la voix évidemment, on a les instruments à vent, donc type flûte, etc. On a les carillons c'est ce genre de choses. Et on a tout ce qui va être aussi clochette. Alors moi je n'ai que des cymbales à vous faire écouter, voilà ce genre de choses. Évidemment les cordes et aussi dans cette catégorie des éléments de l'élément air, vous allez avoir les bols, non pas quand vous les faites frapper, donc frapper, j'aime pas trop ce mot, on va dire sonner, voilà, et ben là en élément air on va plus le faire chanter. Et enfin, on finit par l'éther où vous allez avoir les bols de cristal. Donc ça, j'en ai pas, mais ce sont des bols, je pense que vous en avez déjà vu. C'est comme un peu des bols chantants, mais tout blanc en cristal de roche, on va en parler. Vous avez tout ce qui dit xylophone. Donc ça, c'est les plaques de métal où je vous disais, vous frappez avec des petites baguettes. Vous avez tout ce qui dit chime, c'est ça. Ce genre de choses. Voilà. Et aussi les bols chantants, du coup. Ok. On va avoir ça, tous ces instruments, dans l'annexe, hein, vous inquiétez pas. Hop. Alors, pour continuer là-dessus, donc voilà une classification. Quand vous allez vouloir faire... Enfin, ça va beaucoup nous servir, cette classification, pour faire les bains sonores ou les méditations sonores. Ou les soins sonores, de savoir, ok, ben, quel genre d'instrument je joue pourquoi. Et sachant que, encore une fois, par exemple, le tambour océan, typiquement, ça va être aussi terre que eau. Donc, il faut vraiment vous dire que rien n'est rien n'est classé de manière catégorique. Certains instruments voyagent entre les éléments. Donc, ça, c'est hyper important. Et aussi, c'est vraiment, ils vont faire jouer en nous plusieurs éléments dans notre corps. C'est pas genre Abel Tambour, il fait que résonner la terre dans notre corps. Non, parfois il va faire aussi résonner l'éther. C'est fort possible aussi parce qu'il nous emmène dans des états de conscience modifiés. Donc faut vraiment pas vous fermer l'esprit là-dessus. Je vous ai mis un autre schéma pour vous repérer au niveau de la répartition aussi des instruments. Par exemple, au niveau du corps, donc des zones du corps, cette fois-ci, non plus par les éléments, mais par les zones du corps. J'ai remis les voyelles qu'on a vues dans un cours précédent, le OU avec plutôt la zone du bassin, le O avec la zone du ventre, le A avec la zone de la poitrine, le E avec la zone de la gorge et le I avec la zone de la tête, du front. Sachant qu'on va du plus dense au plus subtil, hein. Et au niveau des instruments, c'est pareil. Quand on est dans la zone du bassin, ça va plus être des sonorités comme les tambours. Dans les éléments, et aussi, alors, tambours et aussi les bâtons de pluie, les crécelles, quand on est dans le haut du bassin. Quand on est dans le ventre, on est beaucoup dans les percussions en métal. Souvenez-vous de Manipura, le feu. Quand on est dans la poitrine, peut-être ça va être plus peut-être des cordes, des choses légères comme ça, des éléments air. C'est vraiment des exemples que je vous ai mis. Quand on est dans la gorge, ça va être des choses un peu plus légères. On va encore plus légèrement dans l'élément air, comme les flûtes, les carillons. Et enfin, quand on arrive au Ajna Chakra et au Sahasrara Chakra, on est sur des choses très subtiles, comme les cristaux, donc les bols de cristal, et les chimes, et aussi le silence, tout simplement. Le silence est aussi un son. Ok. À présent qu'on a vu un peu comment on peut les classifier, on va voir leur utilisation. Donc en soin ou en méditation sonore, Même s'il n'y a aucune convention, les instruments répondent chacun à des niveaux de profondeur particuliers. Par exemple, les gongs et les tambours, ce sont des instruments qui peuvent procurer des états de conscience modifiés, qui sont profonds et qui sont intenses. Chose que, par exemple, un kalimba va très peu faire. C'est possible, hein, mais vous avez plus de chances d'aller dans un état de conscience modifié avec un tambour qu'un kalimba. Voilà. On va voir ça en détail aussi dans la prochaine leçon, comment, là on va voir leur utilisation, et dans une prochaine leçon on va voir comment on organise ces différentes utilisations pour que ce soit fluide dans vos pratiques sonores. Ok, donc on peut classer les instruments selon trois groupes. On va tout d'abord avoir tout ce qui dit instrument de profondeur. Donc ça, ce sont des instruments qui nous emportent facilement dans un état de conscience modifié. Ils vont nous accompagner lors de nos voyages profonds et ils sont joués souvent pendant un certain temps. Ils vont être joués plus longuement. Par exemple, pour aller dans un état de conscience modifié, mieux vaut jouer du tambour pendant 10 minutes. Si on en joue pendant 3 minutes, ce ne sera pas suffisant. Donc souvent, les instruments de profondeur, ils sont joués un certain temps et ils agissent comme des guides à l'exploration sonore. Ils vont nous induire, ils vont induire un profond état de relaxation qui va nous faire changer d'état rapidement. Dans ces instruments, vous avez par exemple les gongs, les bols chantants, les bols de cristal, les tambours, les storm drums, c'est ça les storm drums. Les didgeridoo, ce sont ces grands tubes qu'on voit souvent dans les traditions aborigènes, en Australie notamment. Enfin, c'est que en Australie d'ailleurs, je crois. Je sais pas, je vais pas dire de bêtises. Les ocean drums, donc ça c'est ce que je vous disais, ces fameux tambours océans. Et aussi les tubes allophones, ça ressemble à des chimes. Sauf que là où les chimes, ce sont des pièces de métal pleines, les tubes allophones, bah, c'est des tubes, tout simplement. Alors, j'en ai pas à vous faire écouter. Ensuite, donc ça, c'est pour les instruments de profondeur. Les instruments de transition, ça va être des instruments... Pardon. Il va y avoir beaucoup de bruit en arrière-plan dans ce cours. Les instruments de transition, ça va être des instruments... Donc on passe à cette deuxième catégorie, qu'on va plutôt utiliser en début ou en fin de séance, parce qu'ils permettent de débuter un état. C'est comme une porte par laquelle on va passer et changer d'univers. Et du coup, ces instruments, ils sont parfaits pour transiter d'un instrument de profondeur à un autre. C'est-à-dire qu'on va souvent les utiliser d'un... Comment dire ça ? Par exemple, je veux faire passer du tambour à un bol chantant. En général, on essaie de mettre un instrument de transition entre les deux pour que la transition soit plus douce, que les personnes aient le temps de revenir du tambour pour après s'engouffrer dans la porte du bol chantant. Les instruments de transition, c'est comme des appels qu'on entend au loin et qui nous font revenir. Ils vont nous relier à un autre instrument en captant notre intention. Donc ces instruments de transition, ils sont en général... assez aigu, parce qu'il faut cette sonorité aiguë pour vous appeler au loin. Vous sentirez beaucoup moins appelé par des tonalités graves que par des instruments de transition. C'est pas du tout la même intention. Donc dans ces instruments de transition, on a les carillons que je viens vous faire écouter. On a tout ce qui dit cymbales et clochettes. Ça appelle bien au loin. Tout ce qui va être flûte, surtout les flûtes avec une note, et tout ce qui est crécelle, bâton de pluie, et les wah-wah tubes, c'est des... alors j'en ai pas à vous faire écouter, mais c'est tout simplement des tubes qui font waouh, 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 comme ça. Voilà pour l'imitation. Enfin, troisième catégorie, on a les instruments mélodiques. Donc les instruments mélodiques, ce sont des instruments qu'on va utiliser pour envelopper la personne dans une énergie qui est douce, qui est légère, parce que ce sont des instruments qui sont légers, qui sont apaisants. C'est des instruments qui vont vachement appeler notre enfant intérieur, et ils sont parfaits pour des séances légères, efficaces, sans aller dans un travail qui soit trop intense. Parfois, pas tous les soins ont... Pas toutes les pratiques sonores ont pour vocation d'aller dans des trucs intenses, transformateurs, mouvants. Non, parfois on a envie d'un truc très léger, très simple, très doux. Et c'est ce que permettent les instruments mélodiques. On les associe d'ailleurs, alors les instruments profonds comme les tambours, les gongs, etc. On les associe à des rêves profonds et notamment à l'état θ. L'état de conscience modifié θ, et les instruments mélodiques, on les assimile plutôt à des rêves, à des rêveries, rien de profond, et à l'état alpha. Donc dans ces instruments, vous avez le kalimba. Ok, et vous avez... Alors, désolé, j'ai... Donc pas le chim, hein, pour le coup, mais vous avez aussi, pourquoi pas... Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui dit enpan, les tong drums, donc je vous parlais avant, les fameuses percussions en métal, sur lesquelles vous pouvez faire de très belles mélodies. Hein. Donc voilà. Ok. On continue le cours avec un petit zoom sur les instruments auxquels on pense peut-être un peu plus en sonothérapie, pardon, à savoir les bols chantants, les bols de cristal, les gongs et les tambours. On commence avec les bols chantants. Sachez qu'il y a une vidéo spécialement sur les bols chantants que je vous ai mis juste à la suite de cet audio et que je vous conseille fortement de regarder parce que ça vous donnera plus d'informations sur l'utilisation. Là, on va voir un petit peu plus comment les choisir et comment les classer. Les bols chantants, ils trouvent leur origine en Mongolie ou au Tibet. Et ils sont utilisés depuis très longtemps, je n'ai pas des dates, hein, mais pour une visée thérapeutique notamment, mais aussi pour les rituels chamaniques tibétains, ou aussi dans des méditations bouddhistes, dans les monastères notamment. Leur valeur dépend des métaux qui les constituent, parce que les bols, c'est un alliage de 7 métaux, l'or, l'argent, le mercure, le cuivre, le fer et l'étain, et aussi le plomb. Et ces métaux, on les associe aux différents chakras et aussi aux différentes planètes. Donc, l'or est associé au soleil et à Manipura, l'argent est associé à la lune et à Svadhisthana, Mercure, sans surprise, est associé à Mercure et à Vishuddha, le cuivre à Vénus et à Anahata Chakra, le fer à Mars et à Muladhara, l'étain à Jupiter et à Sahasrara, et le plomb à Saturne et à Ajna. C'est assez... Enfin, moi, je trouve ça assez logique. Hein. Le plomb, pensez à quelque chose qui vous plombe. Hein. Saturne, c'est la planète de la restriction. Donc voilà. On dit aussi que lorsque le bol vibre, ces métaux entrent en résonance avec tous les métaux qui sont déjà présents dans notre corps. Par exemple, ben voilà, le zinc dans notre corps, le fer, etc. Bon, évidemment, c'est pas exactement... Bon, vous m'avez compris, mais... Bref. Il existe aussi des bols avec 3, 5 ou 12 métaux différents, et les bols qui sont fabriqués avec 3 ou 5 métaux, ils vibrent moins longtemps, il faut le savoir. C'est aussi pour ça que, en fonction de l'alliage, évidemment, vous avez des prix différents. La proportion des métaux, la forme des bols, les méthodes de fabrication, c'est hyper variable. Les bols décoratifs, ils sont pour la plupart du temps fabriqués par des machines. Et les bols à portée méditative et thérapeutique, on les confectionne souvent par des forgerons à la main. Ils viennent frapper le bol. Et on peut voir les bols qui sont frappés, qui sont faits à la main. Ils ont comme des irrégularités sur la face. On voit un petit peu les petites bosses. Je vais voir si je peux vous mettre une photo pour que vous puissiez voir. Mais on voit vraiment que ça a été martelé. Si vous avez des bols chez vous qui ont été faits à la main, vous voyez un petit peu le côté martèlement tout autour du bol. Il y a quelques spécificités de bols en fonction de ce qui vous appelle. Du coup, ces fameux bols martelés où la finition est plus ou moins lisse. Vous avez des bols qui sont dorés ou ombrés, qui ont une finition plutôt brune. Les bols qui sont gravés, qu'on retrouve souvent en magasin. Vous avez les bols planétaires qui sont assez coûteux, mais qui sont accordés sur les fréquences des planètes selon le modèle de Hans Cousteau. Chaque planète a une fréquence en fait sur laquelle on peut vraiment adapter les instruments. Les bols lunaires aussi, qui sont confectionnés pendant des lunaisons spécifiques. Vous avez les très connus bols de Peter Hentz. Alors peut-être que je le dis très mal, mais c'est des bols qui sont confectionnés selon le procédé, un procédé qui est précis, qui sont reliés aux travaux de l'ingénieur allemand Peter Hess. Les bols avec poignée, donc c'est-à-dire que vous avez un bol et vous avez vraiment une sorte de poignée en fait, comme si en fait, vous pouvez vraiment le tenir à la main. Enfin, vous le tenez toujours à la main, mais vous avez vraiment une poignée sous le bol pour le tenir. C'est assez intéressant pour en jouer peut-être plus facilement, ça dépend, ça permet une autre prise en main. Et enfin, vous avez des bols lingam. En fait, les lingam, c'est les représentations de Shiva en leur centre. Donc en clair, c'est comme si vous aviez une petite colline au centre du bol, comme si vous voyez les culs de bouteille par exemple à l'intérieur, vous voyez que bah voilà, là, vous avez un peu de plastique qui remonte, ben là c'est la même chose mais en mode pour un bol. C'est très mal expliqué, mais c'est ça peut être intéressant si vous voulez travailler avec l'énergie du lingam. C'est le Shiva lingam, c'est la représentation la représentation de Shiva. Sachant que au niveau de votre choix, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais les bols les plus gros ont des sonorités plus graves, les bols les plus petits ont des sonorités plus aiguës. Vous pouvez les choisir par rapport aussi à leur note fondamentale, parce qu'ils sont fabriqués selon une note, et aussi par rapport aux harmoniques qui suivent cette note fondamentale. On a parlé des notes fondamentales et des harmoniques, de ce que c'était. Les sonorités dépendent également... la sonorité dépend des matériaux utilisés, du poids, de l'épaisseur, du procédé de fabrication, mais aussi de la température ambiante, parce que ça reste du métal, et le métal, il aime bien la chaleur, donc n'hésitez pas à chauffer vos bols avec vos mains avant d'en jouer. Ça dépend aussi du bâton et de la mioche utilisée. Ça, en fonction de ce que vous allez utiliser pour faire sonner le bol, forcément, vous allez avoir des sonorités différentes. Donc dites-vous que pour un seul bol, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. En général, on va préférer les bols classiques en thérapie, et les bols gravés pour les rituels, pour les offrandes, lors des cérémonies, pour mettre des choses dedans. Mais c'est pas une convention, faites ce qui vous plaît. Les bols gravés, ils ont d'intéressant qu'ils vont vibrer les symboles qui sont gravés, tout simplement. C'est préférable, quand vous débutez, d'aller plutôt vers des bols de taille moyenne, notamment pour vous exercer à les faire chanter. Parce que plus vous allez utiliser des bols petits, plus ça va être difficile de les faire chanter, vous allez plutôt les faire sonner. Et plus le bol est gros, plus il est dense et il fait les sonorités sont profondes, alors c'est hyper intéressant. Mais voilà, pour commencer, si vous hésitiez un petit peu, si vous n'avez pas forcément le budget de prendre des gros bols, vous pouvez très bien prendre des bols de taille moyenne et c'est très bien aussi. Plus il est petit, plus il parle de subtil et de légèreté, plus il est gros, plus il parle de densité, de matière, de sphère profonde. Les bols sont idéaux en cas de stress, d'anxiété, de douleur chronique, ou encore les troubles de l'attention, les troubles du sommeil, les addictions, les cas de surmenage, bref, il y a vraiment énormément de possibilités. Ils influent sur les fréquences cérébrales et ils induisent un état de relaxation qui gravite entre l'état alpha, qui est l'état de relaxation simple, et l'état θ, qui est l'état de relaxation profonde, selon la manière aussi dont est joué le bol. C'est-à-dire que si vous jouez le bol assez vite, peut-être de manière irrégulière, vous allez plus rester en alpha. Si c'est des sonorités très longues, très lancinantes, oscillantes, etc., ça va être beaucoup plus être dans des vibrations θ. Les vibrations du bol entrent en résonance avec l'eau qui est présente dans notre corps, comme un massage interne. Leur oscillation pénètre notre énergie et la module grâce au phénomène de répétition. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion que quelqu'un joue du bol à côté de vous et le fait osciller de bas en haut, par exemple, de votre corps. Vous sentez l'oscillation de la vibration dans votre corps passer parce que ça fait entrer en mouvement aussi l'eau dans votre corps. C'est hyper... C'est hyper cool comme expérience. Alors, je vous laisse, si vous le voulez, mettre l'audio en pause, aller voir la vidéo sur les bols chantants, et pour que vous puissiez finir ce chapitre sur les bols chantants. Et à présent, on va passer au bol de cristal. Les bols de cristal, c'est... Alors, ça nous parle de pureté, ça nous parle de lumière, de subtil, d'éthérique. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger. On va les utiliser pour... voilà, des sphères comme le chakra coronal, le chakra du troisième œil, Ajna Sahasrara. Alors que les bols chantants, on peut très bien aller dans des sphères beaucoup plus denses. Les bols de cristal, ils nous font voyager sur d'autres plans. On les appelle d'ailleurs les vaisseaux de cristal. Ils sont faits de poudre de quartz. Alors, spoiler alert, ils ne sont pas faits en cristaux, sinon... en cristal pur, parce que personne ne pourrait se les offrir. Ils sont faits en poudre de quartz, aussi le fameux cristal de roche, c'est-à-dire de sable de silice, donc le silicium, qui est un élément présent partout autour de nous, mais aussi en nous. Parfois, où, je ne sais pas, vous avez peut-être fait des cures de silicium, et bien le bol de cristal peut agir là-dessus. Vous avez pas mal de ressources sur internet sur le rôle de la silice dans le corps, je vous invite à les regarder. On pense que le silicium, notamment, participe à la fixation du calcium et qui joue sur l'ADN du noyau de la cellule. Donc ça va, le bol de cristal va venir résonner là-dessus. Et le quartz, notamment si vous avez des cristals de roche, vous le savez, il y a un côté très mémoriel dans ce cristal-là parce que c'est un matériau qui va vachement intégrer... les mémoires, tout simplement. Et on les intègre d'ailleurs beaucoup, le quartz, dans l'horlogerie, pour la précision de son oscillation. Les montres à quartz sont beaucoup plus précises que les montres électroniques. L'historique des bols de cristal est assez récente. Je ne sais pas si ça vous étonne, moi ça m'a étonnée quand je l'ai appris. Leur fabrication date de la période industrielle. En fait, ils n'étaient pas du tout faits au départ pour... la thérapie sonore, c'est des objets qui viennent de du monde industriel. En fait, ils étaient utilisés pour la résistance aux acides et aux températures élevées. Donc le bol de cristal, c'est vraiment pas quelque chose de mystique, mais non, c'est pas quelque chose d'ancien, d'ancestral. Les bols de cristal, vous les trouverez probablement... en majorité, ils viennent de Chine. Leur fabrication est de Chine. Ils apportent douceur, subtilité. Et il faut aller aussi avec cette douceur et cette subtilité quand vous allez en jouer. Ça reste fragile face à la casse. Les sonorités sont hyper puissantes. Mais si vous voulez, il peut s'endommager avec leur propre vibration. C'est tellement puissant que s'il arrive à un point de saturation pendant trop longtemps, il peut se fêler. Donc il faut faire attention. Leur vibration peut aussi être néfaste pour l'audition à cause de la pression exercée si celle-ci est poussée à son maximum pendant un certain temps. Je me souviens d'une anecdote, ma première rencontre avec les bols de cristal, c'était à l'ashram, à l'école de yoga, et c'était une personne qui nous faisait un bain sonore avec que des bols de cristal, et elle était à l'autre bout de la pièce, et c'était une pièce énorme, c'était une pièce qui était très très longue, qui faisait la longueur du bâtiment, dans laquelle on faisait des cours de yoga à 80 personnes. Donc c'était vraiment une pièce très très grande. Et j'étais à l'autre bout. Et quand elle faisait vibrer les bols, c'était tellement puissant que j'avais l'impression qu'elle était à côté de mon oreille. C'était impressionnant. Et d'ailleurs, je pensais qu'elle avait des micros. Des micros pour diffuser le son. Pas du tout. C'était vraiment sans micro, à l'autre bout du bâtiment, de l'énorme pièce. Et c'était impressionnant. Donc c'est juste pour vous dire que forcément, si ça a une portée telle dans une pièce si grande, imaginez dans un environnement restreint. Donc on fait attention aux oreilles des gens, parce que c'est hyper puissant. C'est très très puissant. Comme un bol chantant, les bols de cristal peuvent se jouer en étant sonnés. Donc j'en ai pas à vous faire écouter des bols de cristal, mais voilà, sonnés. Ou chanter quand on fait quand on passe le bâton en rotation contre la tranche. Dans tous les cas, soyez délicat dans vos gestes. Plus le bol est gros, plus le son prend du temps à monter. Et souvenez-vous que le point de saturation peut briser le bol. Laissez chanter votre bol, ne l'interrompez pas brusquement, faites-le rechanter une fois la vibration descendue. C'est-à-dire que quand vous allez faire sonner un bol de cristal, même un bol chantant d'ailleurs, eh ben, vous allez, la vibration va monter et, c'est quand, et après elle va redescendre. Et à un moment, quand elle est bien redescendue, vous pouvez recontinuer à faire chanter le bol. Les instruments à privilégier pour venir le sonner, ce sont des tubes. Donc c'est des petits bâtons, mais enfin c'est des tubes en fait, avec de la feutrine autour, ou un bâton de bois avec du caoutchouc. Donc voyez ce qui vous parle le plus. Ça donne un son qui est moins intense, mais qui est aussi plus efficace. N'oubliez pas que le bol est un amplificateur d'énergie, donc nettoyez-le régulièrement. Les bols de cristal, ils sont à nettoyer très 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 régulièrement. Vibratoirement parlant, hein, j'entends avec une fumigation par exemple, ou même aussi physiquement, pourquoi pas, avec un chiffon microfibre. Pas de sopalin pour les bols de cristal parce que la fibre raye le bol. Et d'ailleurs, le sopalin est une très mauvaise idée pour tous vos instruments. Et c'est hyper important de nettoyer énergétiquement parce que vu que c'est du quartz, vu que c'est du cristal de roche, le cristal de roche, il est connu pour amplifier une énergie. Donc s'il n'est pas nettoyé régulièrement, et vu qu'il absorbe beaucoup, par exemple vous l'utilisez dans une méditation sonore et qu'il va absorber plein de choses, et bien si vous refaites une méditation sonore et que vous ne l'avez pas nettoyé entre temps, et bien il va juste amplifier ce qu'il a emmagasiné de la précédente méditation. Donc faites attention, on nettoie énormément, enfin beaucoup plus souvent les bols de cristal. On peut retrouver des bols de cristal de 18 à 80 cm. Encore une fois, je vous souhaite un jour de pouvoir vous acheter des bols de 80 cm parce que c'est très coûteux les bols de cristal, comme tout. Enfin, dès que vous allez chercher des instruments très qualitatifs, les tambours, les gongs, ça reste un budget, mais c'est quelque chose que vous gardez toute votre vie. Comme pour les bols chantants, la sonorité d'un bol de cristal dépend de son diamètre et de son épaisseur. Voici quelques spécificités que vous pouvez trouver. Vous avez les bols de cristal classique qui sont lisses à l'intérieur et à l'extérieur. Vous avez les bols de cristal qui sont givrés, c'est-à-dire qu'ils ont une apparence un petit peu rugueuse à l'extérieur. Ils sont lisses à l'intérieur, mais ils ont une apparence un peu rugueuse à l'extérieur. Vous avez les bols transparents, donc ils sont simplement transparents. Enfin, vous voyez l'intérieur plus facilement. Et vous avez aussi des bols de cristal de couleur, donc ils ajoutent une couleur, c'est intéressant au point de vue énergétique si vous voulez travailler une vibration particulière liée à une couleur, etc. Ok, donc ça c'était pour nos bols de cristal. À présent, pour aussi aiguiller votre choix et savoir un peu comment vous pouvez les utiliser. Maintenant, on va voir les tambours. Les tambours, ce sont de puissants instruments, des instruments de profondeur, ils nous connectent à la terre-mère et on les retrouve dans toutes les cultures du monde. Sous différentes formes. Ils ont la particularité de nous faire voyager sur plusieurs dimensions, mais ils nous relient quand même plus facilement à nos ancêtres, à nos racines, à la Terre. À travers le monde, le tambour a toujours été utilisé comme un moyen d'appel ou aussi un conteur d'histoire. Il a toujours été utilisé dans le côté les gens se réunissaient autour. Chaque son et chaque rythme racontent quelque chose en particulier. On l'utilise aussi bien dans des cérémonies que dans des rituels, dans des rites de passage, dans des intimidations pour défendre le territoire, la terre, les tambours militaires par exemple. Sa dimension, elle est hautement symbolique parce que il est comme un véhicule qui nous transporte dans des sphères profondes, des sphères qui sont à la fois subtiles, mais aussi pleines d'ancrage. Donc il a cette particularité de nous emmener aussi bien dans des états de conscience modifiés que de nous ancrer. Donc c'est hyper cool. C'est par le jeu de répétition que la transe du tambour permet ça. Le tambour ouvre un portail en nous qui nous transporte dans un état de conscience modifié. On le considère comme la pulsation même de la vie. Et on s'en sert aussi bien dans des guérisons que dans des nettoyages ou encore pour communiquer avec l'invisible. Le tambour, il crée un vortex énergétique qui nous permet de soutenir ou de ramener une énergie vers nous. Il est fortement lié au cycle, que ce soit celui de la lune, celui de la nature en général, vraiment cette notion de cycle, il représente la matrice, l'utérus du vivant, avec notamment sa forme de eau, Donc penser au cours qu'on a fait sur les voyelles, la représentation de la voyelle O, et bien c'est ça aussi dont parle le tambour. Le rythme soutenu rappelle le battement du cœur de la terre-mère, mais aussi le battement du cœur de la mère pour l'enfant qui est encore dans le ventre. Ça nous connecte à la vibration de Gaïa, de Pachamama, une vibration qui porte la vie, qui est reliée au féminin. D'ailleurs, le tambour est relié au féminin, le bâton qui le frappe au masculin, le bâton qui le fait sonner, pardon, c'est mieux de dire ça comme ça, au masculin. Et on dit qu'ensemble, ils créent la vie, ils créent la vibration de la vie. Le bois et la peau qui est utilisée pour la fabrication nous connectent aussi à la nature, et parce que ça nous connecte à la vibration d'une part de l'arbre, mais aussi de l'animal. De l'arbre pour le bois, l'animal pour la peau. La façon dont on joue du tambour et notre intention nous font voyager entre deux figures du féminin. La première, c'est la mère nourricière, notamment si on fait des battements qui sont réguliers, qui sont monotones, qui sont répétitifs, par exemple. Alors, hop là. Vous voyez, là, on a quelque chose, alors évidemment, jouer beaucoup plus longtemps, qui ramène du calme, de l'apaisement, une guérison, une acceptation. Il y a quelque chose de très englobant. Et au contraire, on peut avoir la deuxième figure du féminin, qui est plutôt la jeune femme sauvage, avec des battements qui sont énergiques, qui sont irréguliers, qui sont saccadés, avec des changements de pattern, des choses vives, des choses énergisantes et des variations de rythme. Ça ramène quelque chose d'un peu plus instinctif, une affirmation de soi, vraiment la jeune fille, hein, quelque chose de très dans la protection, dans quelque chose de très primitif. Ok, on garde quand même en mémoire que tout ce que je dis ici, ça reste des généralités. Ce sont des repères quand vous allez utiliser un tambour pour vos soins, pour vos méditations, mais ça reste quand même des généralités. Quelques effets aussi non exhaustifs du tambour, ça va notamment nous connecter à la richesse, la grande égrégore, le grand égrégore pardon, du tambour, parce que le tambour est relié à une culture particulière en fonction du tambour que vous choisissez. Par exemple, moi c'est des tablas qui sont reliés plutôt à des traditions indiennes. Vous avez le djembé pour les traditions plus africaines, vous avez les tambours japonais, une tradition asiatique qui sont assez parlants aussi. Vous avez des tambours qui sont plus côté Amérique du Sud, Brésil. Enfin, vous avez vraiment une variété. Vous avez aussi les tambours chamaniques, évidemment, plus reliés à des traditions amérindiennes. Vous avez des tambours nordiques. C'est vraiment c'est passionnant de voir à quel point c'est diversifié. Autre chose que permet le tambour, c'est un nettoyage vibratoire. Ça nous aide à créer de l'espace dans le corps. C'est comme si, vous saviez, quand on a de la poussière, imaginons, sur la peau d'un tambour, on va faire... Et bien la poussière va s'écarter. Ben, c'est un petit peu ça. On va l'utiliser pour nettoyer la poussière énergétique. Et on l'utilise beaucoup d'ailleurs pour nettoyer les lieux, les tambours. Le tambour pour nettoyer et le bol chantant pour harmoniser. Le tambour permet aussi facilement d'atteindre l'état theta, le fameux état theta, qui est, on peut l'atteindre avec le rythme chamanique, qui est aussi entre 3,5 et 4,5 battements par seconde. Donc je vous ai fait le calcul, c'est si vous prenez vous allez sur internet, vous tapez métronome en ligne, et vous tapez 240 battements par minute. Alors je ne l'ai pas en tête, mais ça va être quelque chose d'assez rapide comme ça. Et ce rythme-là, joué pendant 10 à 15 minutes, on peut facilement faire entrer les gens dans un état theta. Et ça joue énormément aussi sur le système parasympathique. Alors attention toutefois avec ce que je dis là, d'ailleurs tout ce que je dis dans ce cours, on va voir dans le dernier cours les contre-indications, parce qu'il y a des contre-indications. Pour les gens qui souffrent de maladies psychiques, ça peut être dangereux de les amener dans un état theta. Donc ça, c'est faut vraiment, on va le voir, les contre-indications, mais il y en a, il faut le savoir. On n'emmène pas tout le monde dans des états de conscience modifiés, parce qu'il y a des gens qui y sont trop sensibles et qui y restent coincés. On peut aussi faire le rythme du battement du cœur, qui est à 70 battements minutes. Pareil, vous allez sur métronome en ligne, vous tapez 70. Alors, je ne sais plus exactement, mais ça doit être quelque chose comme ça. Quelque chose dans le genre. Ça, ça peut être intéressant aussi pour se relier à la pulsation de la vie. Aussi, le tambour permet de créer du lien autour des personnes qui sont présentes. Historiquement, il a toujours été joué comme pour réunifier les peuples autour de quelque chose, pour réunifier une tribu. Donc, il y a vraiment cette idée de lien, en fait, social. Il existe une multitude de rythmes différents. Chaque rythme a une signification particulière et vous pouvez vous renseigner selon l'effet que vous désirez faire. Vous pouvez tout aussi bien jouer instinctivement en jouant avec des variations de rythme, des variations en accélérant, en ralentissant, en vous arrêtant, en jouant avec une maillotche, en jouant avec un bâton, en bougeant. Vous pouvez bouger le bâton sur la peau, c'est-à-dire que voilà, vous bougez sur les points cardinaux, nord-est, sud-ouest. Vous pouvez faire des rotations avec le bâton. Vraiment, laissez voir instinctivement ce qui vient. Soyez ouvert, soyez curieux. Vous pouvez aussi jouer en spirale, donc faire des spirales sur votre peau. Vraiment, les explorations sont infinies. Le plus important, c'est toujours la posture avec laquelle vous allez jouer, c'est-à-dire l'intention que vous voulez mettre dans votre jeu et aussi votre capacité à vous laisser guider par votre instrument. C'est ça le plus important. Pour choisir son tambour, vous pouvez vous reporter à plusieurs éléments, notamment son origine, africaine, asiatique, indienne, amérindienne, nordique, etc. La fabrication, donc vous allez soit avoir une peau d'un côté avec des poignes, enfin, qui sont tendues par des fils à l'arrière et qui vous permettent de, comme une poignée en fait, pour le tenir. Soit vous avez la peau des deux côtés, notamment avec les tambours océans dont on avait parlé, mais vous avez aussi des tambours qui ne sont pas des tambours océans et qui ont une peau de chaque côté. Le bois qui est utilisé, si c'est quelque chose qui est important pour vous d'avoir un arbre spécifique. Le processus dans lequel il est fabriqué aussi. Est-ce que c'est fabriqué à l'usine? Est-ce que c'est un artisan? Dans quelles conditions ça a été fait? Le choix de la peau. Si vous préférez des peaux synthétiques ou des peaux animales, sachant que les peaux synthétiques ont quand même un meilleur entretien parce que les peaux animales, elles bougent beaucoup selon la température ambiante. Ça se détend avec le froid, avec l'humidité et ça se resserre avec la chaleur et ça peut les craquer. Donc quand vous avez des grosses chaleurs, il faut penser à les humidifier. Donc ça dépend vraiment de... Et quand voilà, et s'il a fait très froid, et ben il faut retendre la peau pour avoir le son initial. Donc ça dépend vraiment de votre sensibilité. Aussi, ben, si on n'a pas forcément envie de jouer avec les peaux des animaux, sachez qu'il y a des, il y a des peaux synthétiques qui font aussi très bien le travail. Je vous ai mis des liens dans l'annexe du cours. La taille aussi va être importante. Plus c'est petit, plus ce sera facile à transporter. Plus c'est grand, plus... ce sera difficile, mais aussi vous aurez plus de variations. Ce sera beaucoup plus intense. Par exemple, j'ai deux... Les tablas, c'est constitué de deux tambours. Voilà le plus grand. Et voilà la sonorité du plus petit. Vous voyez directement la différence. Dans tous les cas, comme pour tous vos instruments, laissez-vous guider, allez vers celui qui vous appelle. Ok. À présent, on va finir notre exploration, notre petit focus sur les instruments avec les gongs. Alors, j'en ai pas à vous faire écouter, tout simplement parce que c'est aussi un sacré budget, mais c'est un budget qui vaut le coup. Les gongs, ce sont des percussions en métal qui sont créées par un alliage de cuivre et d'étain. Il y a parfois aussi d'autres métaux, comme le zinc et le fer, qui rentrent en compte. Comme tous les bols chantants, enfin, comme pour les bols chantants, les gongs, ils viennent, en fait, on va venir chauffer le métal et on va venir le marteler. Dans une forme particulière, c'est comme ça qu'on les fabrique. Le cuivre du gong va jouer un rôle important dans notre organisme, notamment dans le cuivre présent sous forme d'oligo-éléments dans notre organisme. Et comme pour les tambours, les gongs, ils vont être présents, enfin ils sont présents, dans de nombreuses cultures à travers le monde. Il a toujours été utilisé dans des célébrations, dans des prières, dans des rituels. C'est un instrument qu'on compare à la puissance du soleil. On l'utilise d'ailleurs pour capter l'attention des dieux, c'est ce qu'on dit en tout cas. Le gong a la spécificité de créer un grand nombre de fréquences, des fréquences harmoniques, c'est-à-dire que pour une toute petite fréquence fondamentale, le gong, alors je n'arriverai pas à imiter un gong, ça va faire... Il y a vraiment ces harmoniques qui sont hyper impressionnantes, même avec une toute petite frappe. Donc pour une fréquence fondamentale, il y a énormément d'harmoniques, et le gong nous permet d'entrer en résonance avec de nombreuses dimensions. De ce fait, c'est plus il va vibrer, plus il va osciller, et plus on va rentrer en contact avec toutes les cellules de notre être. Sa particularité, elle résulte en des vagues sonores successives. Quand vous allez jouer d'un gong, vous allez sentir que le son, ça fait plusieurs vagues sonores. Je vous invite à écouter ça, même sur YouTube. Vous allez avoir différentes vagues sonores, et c'est vraiment la particularité des gongs. On relie aussi la qualité du gong au nombre de vagues qu'il peut faire à partir d'une note fondamentale. Plus il va aller loin dans les oscillations, plus on considère que le gong est de bonne qualité. Le gong, c'est un instrument de profondeur qui est très très puissant, et la sonorité induit un état de conscience modifié très rapide. On l'associe au son primordial, au son de la création. Son éventail de fréquences permet l'expansion et le rayonnement de tout notre être. On le relie également au son des profondeurs océaniques, parce que ses fréquences rappellent celles des animaux marins. Surtout si vous le jouez avec, dans l'annexe, je vous ai mis ça, vous avez différentes baguettes possibles, et vous avez des baguettes magiques pour gong, donc c'est des petites baguettes qui sont un petit peu en spirale à la fin, et ça fait vraiment un son hyper particulier qu'on peut relier un petit peu aux baleines, c'est assez intéressant. Lorsqu'on joue du gong, le son monte vite, mais il redescend... lorsqu'on joue du tambour, le son monte vite, mais il redescend aussitôt. Par exemple, quand je joue du tambour... Hop. Voilà, le son monte, descend directement. Alors que quand on joue du gong, on va faire une note et ça va continuer, ça va monter, ça va... Il va y avoir énormément d'harmoniques, et c'est ça les vagues sonores qu'on recherche, c'est comme des couches qui s'entremêlent pour créer de nouvelles sonorités. Et le gong, il nous entraîne littéralement dans ses profondeurs par rapport à ces vagues, ces oscillations sonores. Il entraîne la conscience, et comme la conscience n'arrive pas à trier toutes les sonorités en même temps, et ben il va lâcher prise, et c'est là qu'on rentre dans cet état de conscience modifié. Il existe plusieurs types de gongs. Vous avez les gongs à bosse, qui sont des gongs qui sont accordés sur une fréquence particulière et qui ont un son uniforme. On les reconnaît notamment parce qu'ils ont tout simplement une bosse en leur centre sur laquelle on vient frapper pour avoir le son. On a aussi des gongs qui sont fins et plats, qu'on appelle, qui sont légèrement incurvés, qu'on appelle les gongs solaires ou les feng kong ou encore les wing kong. Les wing kong qui sont des gongs qui sont très très riches en harmoniques et qui sont beaucoup utilisés en sonothérapie. Et vous avez aussi les gongs à bord repliés aussi qui sont pas mal utilisés. Sachant les gongs à bosse, ce que j'ai dit en premier, on les voit surtout dans les temples. Voilà, c'est beaucoup plus utilisé dans ces dispositions-là. Et pour revenir aux gongs à bord repliés, c'est simplement que les bords sont épais et repliés sur eux-mêmes. Ce sont notamment des gongs symphoniques. Vous avez aussi les gongs tam-tam ou chao-kong. Et aussi les gongs lunaires, qui sont assez chers, mais qui ont un son particulier. Le diamètre joue inévitablement sur la richesse de la sonorité, parce que chaque centimètre en plus va apporter de nouvelles harmoniques. Donc plus il est grand, plus la richesse des harmoniques est grande. Cependant, plus le gong est grand, plus il est aussi onéreux et lourd. Donc il va être tenu par un support. Donc ça, faut le prendre en compte. Un gong, c'est lourd. plus vous le prenez grand, plus ça va être difficile à transporter. Et puis il faudra toujours vous trimballer le support aussi. Le minimum idéal pour une belle sonorité, c'est 40 cm. Comme pour les bols chantants d'ailleurs. Enfin, chaque gong, il est unique par la fréquence. Donc, qu'importe aussi s'il est grand ou petit, mais sachez que, comme pour les bols chantants, le métal, forcément, il a été martelé d'une certaine manière, etc. La fabrication, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte qui fait que ça va amener une fréquence particulière. Voilà, ça dépend du type de gong, de la taille, de la méthode de fabrication, etc., etc. Le gong étant un instrument puissant, la douceur dans son approche, elle est indispensable. On peut l'approcher en créant un bourdon, donc une sonorité profonde, une fondamentale d'un coup, qui est plus ou moins stable, donc vous le frappez d'un coup, sachant que plus on joue proche du centre du gong, plus on va se rapprocher de la note fondamentale. Ou alors, on va faire une éclosion du son, c'est-à-dire qu'on va faire plein de petits tapotements successifs, et ça, ça va éveiller le gong au fur et à mesure, et ça va faire monter l'intensité du son, et ça va le faire résonner de manière progressive. Donc c'est la superposition des vagues qui va créer l'intensité de la sonorité. Je vous invite à aller sur YouTube, à regarder quelqu'un jouer d'un gong. Soit il va faire un bourdonnement simple, donc il va frapper une fois, soit avec deux mayoches, il va taper successivement. Vous allez voir que les sonorités sont complètement différentes. Ok. Donc ce qui est intéressant avec le gong, c'est que s'il est assez léger pour que vous puissiez le porter, vous pouvez vous déplacer avec et bouger le gong dans la pièce. Vous pouvez le ventiler d'avant en arrière, vous pouvez le faire pivoter, vous pouvez le faire swinguer comme un pendule. Enfin, vraiment, vous pouvez vous amuser à le faire bouger pour avoir des oscillations de sonores différentes. Vous pouvez le faire tourner autour de vous. Enfin bref, évidemment, soyez attentifs, vérifiez toujours les... parce que si vous voulez, les gongs qu'on peut tenir à la main, vous avez une sorte de corde à laquelle vous pouvez tenir et vérifiez toujours si la corde est bien attachée. Ce serait bête de le voir valser au fond de la pièce. Vous pouvez aussi, donc comme je vous ai dit, plus vous allez jouer au centre du gong, plus les tonalités vont être proches de la fondamentale, et plus vous allez vous éloigner du centre, plus les sonorités vont être des harmoniques aiguës du gong. Traditionnellement, on conseille de jouer avec un mouvement vers le haut, donc du centre du gong vers le haut, pour la partie nord, et un mouvement du centre vers le bas pour jouer dans la partie sud du gong. Donc ça aussi c'est intéressant de jouer aussi sur les points cardinaux, soit nord, sud, est, ouest, sur les gongs aussi, c'est comme pour les tambours, vous pouvez vraiment moduler vos frappes en fonction de ce que vous recherchez. On dit que lorsqu'on joue en s'éloignant du centre, on élève les tonalités, et lorsqu'on joue en se rapprochant du centre, on abaisse les tonalités. D'ailleurs, pour venir rencontrer le gong, c'est comme avec l'épaule chantant, on fait un petit mouvement incurvé, pas un mouvement direct. On va comme si on venait, comme une petite vague en fait, avec notre poignet. On fait un petit mouvement incurvé pour lancer le son. On n'y va pas direct de but en blanc. On fait les choses avec douceur. Le son des gongs ne descend pas rapidement comme les autres instruments, donc il faut bien laisser veiller le gong à monter dans ses sonorités seul, il se débrouille, c'est là la beauté du gong. Donc laissez vraiment le son émerger, sinon vous allez interrompre la durée et vous allez interrompre le nombre d'oscillations de vagues sonores que le gong peut offrir et c'est dommage. Vous pouvez aussi utiliser les doigts pour éveiller le gong doucement au début, notamment au début de votre exploration sonore. Puis après, vous pouvez continuer tout doucement avec des mayoches. Vous avez aussi au niveau des mayoches pour votre choix, plus la mayoche est grande, plus elle est douce. Enfin, plus elle est grande et plus elle est douce, plus les sonorités seront graves et profondes. Plus vous jouez avec une mayoche qui est précise, petite et dure, plus le son sera aigu. Donc ça c'est aussi un choix en fonction de ce que vous voulez. Et je vous ai mis différents types de mayoches, de bâtons et de baguettes dans l'annexe du cours que je vous laisse regarder juste après cet audio. Merci à tous et à tout de suite pour la suite du cours.